Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Visage de la Bible. Catherine Mann au micro pour vous proposer de feuilleter la Bible comme un album de famille, celui d'une grande famille spirituelle, où nous allons nous attarder sur quelques visages d'hommes et de femmes, en choisissant plutôt de mettre en lumière ceux qui ne sont pas très connus, mais qui méritent pourtant de l'être, ou en tout cas, qui méritent que l'on s'y intéresse. Car dans la Bible, tout a son importance. Je vous propose aujourd'hui de mettre en avant un visage très peu connu de la Bible, celui d'une femme nommée Yaël. Mais avant de parler d'elle, nous devons bien sûr la situer dans son époque, et pour cela présenter d'abord le visage de Déborah, dont elle fut l'alliée. Nous sommes encore donc au début de l'époque des juges, peu de temps après l'installation des Hébreux sur une terre donc, qui leur est donnée par Dieu, au milieu de tribus cananéennes. Il n'y a donc pas encore de centralisation politique, chaque tribu reste autonome, et les problèmes socio-religieux se règlent par l'intermédiaire de personnages charismatiques, les juges. Or, nous voyons dans la Bible au chapitre 4 du livre des juges, que le visage qui apparaît comme juge en Israël est celui d'une femme, Déborah, dont le nom signifie « abeille ». Je vous lis ce que dit donc le verset 4 du chapitre 4 des juges. « Or, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait en Israël en ce temps-là. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les fils d'Israël montaient vers elle pour les questions d'arbitrage. » Voilà, quand on se rappelle la fonction importante qu'avaient les juges, mais ici les problèmes que va devoir régler Déborah ne sont vraiment pas simples. Le texte explique ensuite ceci. « Les fils d'Israël recommençaient à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les livra au roi de Canaan, et à Sisra, qui était le chef de l'armée de Canaan. Alors les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur, car Sisra avait 900 chars de fer, et il avait opprimé durement les fils d'Israël. » Voilà donc le contexte de la vie de Déborah et Yaël, qui est celui d'une guerre entre Israël et Canaan, une guerre punitive voulue par Dieu, où Israël a le dessous, parce que c'est ainsi que Dieu choisit de punir les désobéissances de son peuple, sans doute pour les ramener à plus d'humilité et de soumission à l'Alliance. Donc, au bout de longues années de souffrance, Israël décide de se tourner vers Dieu, et pour cela, donc, ils vont confier leur destin au juge, qui joue le rôle d'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Et ce juge est donc ici la prophétesse Déborah. Après avoir consulté le Seigneur, Déborah va faire appeler le chef de l'armée d'Israël, qui est alors certain Barak, fils d'Avinoam. Elle lui dit ceci, donc chapitre 4, versets 6 et 7. « Vraiment, le Seigneur Dieu d'Israël a donné cet ordre. Va, rassemble au mont Tabor, prends avec toi 10 000 hommes, des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent du Kishon, Sisra, chef de l'armée de Canaan, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Voilà donc la prophétie de Déborah. Dieu a entendu les prières de son peuple et accepte d'intervenir pour l'aider dans sa guerre. Le chef de l'armée d'Israël aurait pu se contenter de cette intervention comme simple médiation avec Dieu et obéir, mais ce n'est pas sa réaction. Au contraire, Barak dit à Déborah, « Si tu marches avec moi, je marcherai, mais si tu ne marches pas avec moi, je ne marcherai pas. » Voilà. Pourquoi Barak dit-il cela? Sans doute a-t-il peur et il croit que la présence de Déborah le protégera, le guidera. Parce qu'effectivement, elle pourra toujours entrer en communication avec Dieu en cas de besoin, c'est quelque chose de rassurant. En tout cas, Déborah cède à ce genre de petit chantage et lui dit, verset 9, « Donc je marcherai avec toi, toutefois sur le chemin où tu marches, la gloire ne sera pas pour toi, car c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisera. » Donc finalement, en échange, c'est de la gloire du chef de guerre qui va disparaître, ce qui est à mon avis pas cher payé. Voilà donc une prophétie qui annonce l'intervention d'une femme dans la victoire. Alors s'agit-il de Déborah elle-même ou d'une autre femme ? Rien n'est dit de plus. En fait, l'armée d'Israël se met en route, accompagnée par Déborah, et va rencontrer l'armée cananéenne avec ses 900 chars de fer. Déborah dit donc à Barak, on lit au verset 14, « Debout, voici le jour où le Seigneur livre Sisera entre tes mains. Oui, le Seigneur est sorti devant toi. » Alors commence une terrible bataille, on passe les détails, on voit bien sûr, selon la prophétie, Israël va sortir vainqueur. Le texte nous dit « Toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, et il n'en resta pas un seul. » Alors, pas un seul, sauf Sisera, donc le chef de l'armée. Sisera, lui, il réussit à prendre la fuite discrètement. Il prend la tangente, parce qu'il connaît bien la région, et il connaît quelqu'un dans la région, un certain Héber le Kénite, et il court chez lui en douce pour se réfugier en sécurité. Mais alors là, ce qui est étonnant, c'est que Héber semble être absent. On n'en parle pas dans la Bible. Parce que c'est sa femme qui va accueillir le fuyard. Et cette femme, elle s'appelle Yaël. Lisons donc maintenant tout cet extraordinaire épisode, donc Livre des Juges, chapitre 4, versets 18 à 21. Yaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit « Arrête-toi, mon Seigneur, arrête-toi chez moi, ne crains rien. » Donc il s'arrêta chez elle, dans sa tente, et elle le recouvrit d'une couverture. Il lui dit « Peux-tu me donner à boire un peu d'eau, car j'ai soif ?» Elle ouvrit l'outre de lait, le fit boire, puis vite le recouvrit. Il lui dit « Tiens-toi à l'entrée de la tente, si quelqu'un vient et t'interroge disant « Y a-t-il quelqu'un ici ?» tu diras « Non ». Après cela, Yaël, femme de Héber, prit un piquet de la tente, saisit dans sa main le marteau, entra doucement auprès de Sisera, qui, épuisé, s'était profondément endormi, et elle lui enfonça dans la tempe le piquet qui alla se planter dans la terre, et Sisera mourut. Nous venons ainsi de voir le geste terrible de Yaël. Elle a tué de ses propres mains Sisera, le chef de l'armée des Cananéens, après l'avoir attiré chez elle avec gentillesse et l'avoir mis en confiance. Il faut dire que Sisera avait fui les combats, voyant la victoire d'Israël qui était inévitable et que tous ses hommes allaient être tués. Donc il décide de les abandonner. Cette fuite est vraiment méprisable, c'est de la lâcheté. Et dès que Barak, le chef de l'armée d'Israël, se rend compte de cet abandon de poste du chef ennemi, il se met à la poursuite, bien sûr, de Sisera avec un groupe armé dans l'intention évidente de le mettre à mort, comme tous les autres, pour que la victoire d'Israël soit vraiment totale. Il faut au moins que le chef soit fait prisonnier ou mis à mort. Mais Sisera a trouvé un moyen de bien se cacher dans la maison d'un ami, et on peut dire que Yaël a eu, en somme, raison de poser le geste nécessaire pour compléter la victoire d'Israël. Le geste, mais quel geste ? D'un coup de marteau, elle a enfoncé un piquet dans la tête d'un homme qu'elle avait d'abord accueilli comme un ami, mis à l'abri, caché soigneusement sous une couverture, pour qu'il s'endorme en toute confiance. Devant l'acte de cette femme intrépide, on est, me semble-t-il, à la fois saisi d'admiration et d'horreur. Comment une femme a-t-elle trouvé le courage et la force d'une telle mise à mort? Et pourquoi la Bible nous montre-t-elle aussi clairement cet événement? La conquête de la terre promise a donc été parachevée par deux femmes hors du commun. D'abord Déborah, juge et prophète, qui va conduire la guerre contre Canaan, un peu à la manière de Jeanne d'Arc immergée dans les combats. Et ensuite, c'est Yaël, cette simple ménagère, épouse au foyer, qui va mettre fin à cette guerre en éliminant le chef des armées ennemies. Que devons-nous comprendre d'une telle situation? D'abord, il faut admettre quand même que toute l'histoire d'Israël s'est construite sur d'innombrables combats, dans une hostilité environnante totale, difficile à expliquer d'ailleurs, mais que pourtant Dieu est toujours resté mystérieusement présent dans ces combats. Mais aussi que nous ne pouvons pas, d'autre part, je dirais, idéaliser une sorte d'éternel féminin fait de douceur et de délicatesse, qui serait limité aux petits problèmes domestiques. Ce texte nous montre des femmes pleinement conscientes des problèmes de la vie politique, sociale et spirituelle, et qui s'y engagent avec courage et responsabilité, et surtout qui ont des résultats tangibles, qui sont efficaces, puisque ensuite le pays vivra en paix. Alors la Bible dit 40 ans, qui est peut-être un chiffre symbolique, mais en tout cas, la suite du récit biblique nous montre Yaël qui va à la rencontre du chef militaire d'Israël, Barak, et elle lui dit « Viens, je te ferai voir l'homme que tu cherches ». Barak entra chez elle et vit que Sisra gisait mort, le piquait dans la tempe. Et ensuite, verset 23, « En ce jour-là, Dieu abaissa le roi de Canaan devant les fils d'Israël. » Donc c'est l'histoire d'un peuple protégé par son Dieu. Et après ça, tout le chapitre 5 du livre des Juges est consacré à un long poème attribué à Déborah, un cantique en forme de relecture de tous ces événements replacés dans l'alliance du peuple hébreu avec son Dieu. Alors, c'est très long, donc je ne lis que quelques petits morceaux. Versets 24 à 31, description de Yaël qui commence par ces mots. « Béni soit parmi les femmes Yaël, femme de Héber le Kénite, parmi les femmes qui vivent sous la tente, qu'elle soit bénie. » Voilà, donc on en sens son souvenir. Et le dernier verset 31 dit « Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, Seigneur, et que tes amis soient comme le soleil quand il se lève dans sa force. » On peut effectivement transposer en disant que tout ça doit être relu sous une forme spirituelle, théologique. Il faut convaincre les ennemis et les convertir. En tout cas, ici se termine le portrait de Yaël, mais il n'est pas possible de la quitter sans la relier à une autre femme de la Bible qui connut un destin presque identique, c'est-à-dire Judith. Elle est un peu mieux connue car tout un livre lui est consacré. Le livre de Judith est une histoire qui n'a pas été admise dans la collection officielle des textes sacrés par les rabbins juifs. Elle est uniquement dans les Bibles chrétiennes. C'est donc ce qu'on appelle un récit deutérocanonique, ce qui n'enlève rien, bien sûr, à sa valeur symbolique pour notre réflexion. Les événements ici sont situés dans une petite ville de Palestine, encerclée par les ennemis qui sont des envahisseurs assyro-babyloniens dont les armées sont dirigées par un certain Holoferne. Le siège de la ville dure depuis plus d'un mois et les habitants sont à bout. Lisons donc le livre de Judith, chapitre 7, verset 21. Les citernes se vidèrent et ils n'avaient plus assez d'eau pour boire un seul jour. Les enfants étaient exténués, les femmes et les jeunes gens étaient épuisés de soif et tombaient sur les places de la ville. Ils n'avaient plus aucun soulagement. Voilà, donc une situation qui est décrite tellement critique que les habitants sont prêts à se rendre. C'est alors que le chapitre 8 donc, du livre de Judith fait entrer en scène Judith, femme veuve, riche veuve de la ville, dont le mari était mort depuis plus de 3 ans, et depuis elle vivait, selon les coutumes, strictement définies, les coutumes du grand deuil en Israël. Je vous lis quelques versets, chapitre 8, versets 5 à 7. Elle s'était faite une chambre sur le toit de sa maison. Elle mettait un sac sur ses reins et portait des vêtements de veuve. Elle jeûnait tous les jours de son veuvage, sauf les sabbats et les veilles, sauf les nouvelles lunes et leurs veilles, ou les fêtes et les réjouissances de la maison d'Israël. Elle était fort belle, de belle apparence et de très gracieux aspect. Voilà donc une première description du portrait d'une femme extrêmement pieuse qui respecte scrupuleusement les lois religieuses du veuvage et qui pour cela bénéficie d'une réputation sans tache. Quand Judith se rend compte de la tournure dramatique que prennent les événements dans sa ville, elle va prendre les choses en main et inviter chez elle tous les chefs et les responsables pour leur donner son analyse de la situation et leur proposer une solution. Alors, elle situe le problème d'abord sur un plan religieux, en rappelant les responsabilités spirituelles d'Israël, puis les invite à se tourner vers Dieu. Je vous lis verset 17. C'est pourquoi, en attendant le salut de sa part, appelons-le à notre secours, il entendra notre voix, si c'est sa volonté. Alors ensuite, elle leur donne son analyse politique, qui est beaucoup plus étonnante, versets 21-22. « Si nous sommes pris, c'est toute la Judée qui sera prise aussi. Alors notre lieu saint sera pillé, et Dieu, dans le sang, demandera compte de sa profanation. Il fera retomber sur notre tête le meurtre de nos frères, la captivité du pays et la désolation de notre héritage. » Parce qu'il faut comprendre que la petite ville se situe donc sur le chemin de Jérusalem et qu'effectivement, dès que la ville tombe, ensuite c'est Jérusalem qui va tomber. Elle a le sens de la responsabilité donc, et en fait part à ses responsables politiques. Continuons de contempler le visage de Judith au moment où elle exhorte les responsables de son peuple pour leur faire comprendre l'importance des enjeux stratégiques. Je vous lis verset 24 du chapitre 8. « Maintenant donc, frères, montrons à tous nos frères que leur vie dépend de nous, que le lieu saint, la maison de Dieu et l'autel reposent sur nous, et rendons grâce au Seigneur Dieu qui nous éprouve. » Alors, tous vont s'incliner devant cette femme clairvoyante et intelligente et vont suggérer qu'elle intercède pour eux auprès de Dieu et lui demande d'obtenir de la pluie qui les aiderait au moins à vaincre la soif. Mais elle ne va pas du tout répondre sur ce plan-là. Lisons chapitre 8, verset 32-34. Judith leur dit « Écoutez-moi, je vais faire une action qui parviendra aux fils de notre race jusqu'à des générations de générations. Vous vous tiendrez à la porte cette nuit. Je sortirai avec ma suivante. Vous ne vous inquiéterez pas de mes agissements, car je ne vous dirai rien jusqu'à ce que soit achevé ce que je fais. Mais le Seigneur visitera Israël par mon entremise. » Elle est sûre d'elle, absolument sûre d'elle, et tout le chapitre 9, ensuite est consacré à une extraordinaire prière que Judith fait monter vers Dieu Alors, malheureusement, trop longue pour tout lire, je vous lis quelques versets quand même qui sont importants, à partir du verset 8, où elle accuse les ennemis de Dieu. « Ton nom est Seigneur, romps leur vigueur par ta puissance et abats leur force par ton courroux. Car ils ont projeté de profaner tes lieux saints, de souiller la tente où repose ton nom glorieux, et de renverser par le fer la corne de ton autel. Regarde leur orgueil, envoie ta colère sur leur tête. Donne à ma main de veuve la force que j'ai préméditée. Frappe le chef et son esclave par mes lèvres trompeuses. Broie leur haute taille par ma main de femme. Car ta force n'est pas dans le nombre, ni ta puissance dans l'effort, mais tu es le Dieu des humbles, le secours des petits, le défenseur des faibles, le protecteur des abandonnés, le sauveur des désespérés. » Voilà, j'arrête un peu. Là, lorsque la prière, elle se continue hein, longuement, mais après la prière, Judith va quitter ses habits de veuve, laver son corps et le parfumer d'une huile odorante, puis revêtir ses plus beaux habits de fête et tous ses bijoux. Donc en bref, comme dit le verset 4 du chapitre 10, « Elle se fit très élégante pour séduire les yeux des hommes qui la verraient. » On sait qu'elle est très belle, et en plus ses prières l'ont remplie de confiance en elle, alors elle revêt son habit de lumière pour aller au combat. Elle charge une de ses servantes de divers aliments et de vins qui doivent servir d'offrande, puis elle sort de la ville et se rend où ? Ben, dans le camp des ennemis. Alors quand elles approchent, le garde du camp les interroge et voici ce que lui dit Judith. Parce qu'il faut qu'elle se présente, elle dit « Je suis une fille des Hébreux et je m'enfuis de chez eux parce qu'ils vont bientôt être livrés entre vos mains. Et je viens voir Holoferne, le général en chef de votre armée, pour lui apporter des paroles de vérité et lui montrer le chemin qu'il doit suivre pour devenir le maître de toute la région. » Pouh. Donc le pari de Judith est réussi. Hein. Les soldats sont subjugués par sa beauté et charmés par ses paroles. Et donc ils la font entrer dans leur camp pour aller rencontrer leur chef. Et puis une fois devant Holoferne, il faut dire que véritablement Judith va l'embobiner pour se faire admettre comme espionne envoyée de Dieu. C'est se présenter comme l'intermédiaire idéal d'une conquête sans risque, en toute réussite. Donc, lisons chapitre 11, verset 19. Elle dit « Je te conduirai à travers la Judée jusqu'à ce que tu arrives devant Jérusalem. Je placerai ton trône en son milieu et tu les conduiras comme des brebis sans berger, sans qu'un chien de garde gronde contre toi. » Car cela m'a été dit et annoncé selon ma préscience et j'ai été envoyé pour te le rapporter. » Ces paroles plurent à Holoferne et à tous ses officiers. Ils admirèrent sa sagesse et dirent « Il n'y a pas de femme pareille d'une extrémité de la terre à l'autre pour la beauté de son visage et l'intelligence de ses paroles. » Voilà, Judith a convaincu l'ennemi de sa bonne stratégie militaire qui va être accueillie, donc, et elle sera admise dans le camp et traitée comme une reine. Elle obtint même le droit de continuer ses prières en sortant chaque soir du camp avec sa servante, car elle avait convaincu Holoferne de se convertir au Dieu d'Israël quand il aurait achevé son invasion. Après plusieurs jours, Holoferne va organiser un grand banquet pour tous et y inviter Judith avec l'intention évidente de la séduire. Lisons quelques versets, chapitre 13, versets 1 et 2. « Quand il se fit tard, les serviteurs se pressèrent de partir, on ferma la tente et ils allèrent se coucher. Tous, en effet, étaient fatigués parce qu'ils avaient trop bu. Judith seule fut laissée dans la tente avec Holoferne, effondrée sur son lit, car il était noyé dans le vin. Judith se met alors à prier et ensuite, lisons quelques versets, s'avançant vers la barre du lit qui était à la tête d'Holoferne, elle en retira son cimeter, puis s'approchant, saisit la chevelure de la tête d'Holoferne en disant « Seigneur Dieu d'Israël, fortifie-moi ». Puis elle frappa deux fois sur son cou de toute sa vigueur et elle lui ôta la tête. Peu après, elle sortit et remit la tête d'Holoferne à sa servante, qui la mit dans sa besace à provision, et elles sortirent toutes deux ensemble, comme elles en avaient l'habitude, pour aller à leur prière. Voilà, c'est donc ainsi que les deux femmes sortent sans être dérangées. Elles retournent dans leur ville. Et évidemment, la suite est de la même veine, hein, il faut dire. Judith exhiba la tête d'Holoferne en racontant son histoire, et tout le peuple fit monter vers Dieu des prières d'action de grâce. Par exemple, « Tu es béni, ô notre Dieu, toi qui as anéanti aujourd'hui les ennemis de ton peuple. » Et de fait, en fait, comme Judith a aussi ajouté, « Prenez cette tête et suspendez-la au créneau de notre rempart. » Donc, visible de tous, l'effet fut radical sur les ennemis qui essayèrent de fuir dans tous les sens. Mais alors, ils sont rapprochés par les armées d'Israël qui se lancent à leur poursuite. Et c'est le massacre. Tout ça est assez terrible, mais voilà, c'est la guerre. Elle finit par la victoire d'Israël. Et le livre de Judith se termine au chapitre 16 par un long cantique d'action de grâce de Judith, qui ensuite retourne à sa vie de veuve pieuse, qui vivra, nous dit le texte, tranquillement jusqu'à 105 ans. Alors, que devons-nous retenir de ce récit aujourd'hui, à part dire que les guerres sont véritablement une horreur, mais qu'il faut tout faire pour arriver à vivre en paix? Alors, tout faire, mais jusqu'où? En tout cas, nous avons vu aujourd'hui que ces femmes se sont montrées particulièrement efficaces, courageuses, fortes, intelligentes, dans des circonstances incroyablement tragiques. Les visages de Déborah, Yaël et Judith nous surprennent et pourtant doivent encore être pour nous des modèles inspirants aujourd'hui. Parce que tout ça se fait dans la piété, dans la proximité de Dieu, leur vertu, leur courage. Elles doivent nous rester des modèles par leur sagesse, leur intelligence, leur audace à prendre la parole et à agir pour redresser des situations qui étaient devenues apparemment sans issue. Ce que la Bible nous montre surtout, je pense, c'est qu'il serait vraiment dommage de se priver de tant de potentielles richesses humaines au nom de quelques ridicules idéologies misogynes. Et maintenant, il est temps de vous dire au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.